Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous lisions dans le psaume 39 un verset, simplement un verset, le verset 4 qui va nous situer dans notre réflexion. Alors voilà, donc je rappelle le psaume 39, verset 4. C'est un psaume de David, et David nous dit ceci: « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. » Voilà, on va reprendre simplement. « Mon cœur brûlait au-dedans de moi, et un feu me consumait. » Alors, qu'est-ce que peut bien vouloir dire le roi David en écrivant ces mots? Vous savez ce que c'est qu'une brûlure. Ça vous est arrivé, ça nous est arrivé à tous. Finalement, de nous brûler par inadvertance, par mégarde, et c'est toujours très vif et très douloureux. Et lui, il parle de son cœur qui le brûlait. Et nous voyons que il y a certainement une signification autour de tout simplement, cet écrit. Et à tel point qu'il ressentait comme un feu, parce que ça va ensemble, hein. Qui dit brûlure dit feu. Et nous voyons que à travers cela, c'était quelque chose qui n'était pas à l'extérieur de lui-même, comme nous pouvons parfois, le ressentir, mais c'était quelque chose à l'intérieur. Quelque chose qui consume, quelque chose qui fait très mal et dont on a du mal à soigner parce que c'est à l'intérieur. Il y a naturellement des remèdes appropriés pour des brûlures sur notre corps, naturellement notre peau, mais en ce qui concerne l'intérieur, c'est tout à fait une autre affaire. Parce que quel apaisant peut-on donner, peut-on mettre lorsque notre cœur est animé d'un feu intérieur. Alors ceci nous conduit justement à cette réflexion ce soir de ces brûlures, de ce feu, de la nature du feu qui peut parfois nous consumer. Et nous avons donc à travers l'histoire de la Bible quelques personnages qui apparaissent, mais dans le sens positif. Alors bien sûr, il y a le négatif également. Je pourrais vous parler que un homme comme le roi Saül, celui qui était précisément roi d'Israël avant David, lui était, il avait cette brûlure, il y avait un feu à l'intérieur de lui-même, de l'impatience. Et vous savez que c'est comme ça qu'il a perdu sa royauté. Il ne pouvait pas attendre. Dieu lui avait dit, attends, parce que j'ai quelque chose à te demander, j'ai quelque chose à te faire faire. Et c'est ainsi que, il a perdu sa royauté. Et puis, on connaît d'autres personnages, moi je pense à Samson qui souffrait de brûlures, de convoitises. Et vous savez comment ça s'est terminé pour Samson. Ça l'a emporté lui aussi. Mais moi je voudrais quand même vous donner, avant d'aller un petit peu plus loin dans notre réflexion, parler de quelques personnages de la Bible, ça serait une introduction, qui ont brûlé au contact, mais pas au contact de n'importe quoi. Parce que nous allons parler d'un feu qui est tout à fait particulier, mais un feu qui brûle, mais qui ne détruit pas. C'est assez étonnant, parce que souvent, la flamme, l'ardeur de la flamme, est cruellement ressentie, et si nous restons exposés comme ça, nous allons disparaître, et vous savez que le feu, il ne laisse pas de traces. Il ne reste plus rien, quand il va jusqu'au bout de son action, il ne reste plus que des cendres. Mais il y a quelque chose dans la Bible dont la Bible nous parle à travers des personnages qui ont été mis en contact avec ce feu-là et qui, au lieu de se consumer, ont découvert quelque chose de formidable, parce que, on en parlera tout à l'heure, le feu c'est aussi la lumière, c'est aussi une chaleur. On y reviendra. Alors naturellement, mais je vous ai parlé de personnages, on se souvient du buisson ardent, hein. Et ça c'est l'histoire de Moïse. Vous savez que lorsque nous y regardons de plus près, et la sélection que j'ai faite, elle n'est pas dans l'Ancien Testament, mais elle est dans le Nouveau Testament, hormis ce que David nous dit que, eh bien là, il y avait un feu intérieur qui le consume. Moi, je pense spontanément à une femme qui ne connaissait pas Dieu, ou très peu. Une femme dont l'histoire nous est rapportée dans le livre des Actes, elle s'appelle Lydie. Ça vous dit quelque chose ? Hein, ça se trouve dans ce fameux livre d'histoire, l'histoire de l'Église, première Église. Et nous voyons qu'elle a été mise au contact avec ce feu. Alors je vais vous dire quelle est la nature de ce feu, quelle est l'origine de ce feu, et quel est le nom de ce feu. Ce feu, c'est la parole de Dieu. Ouais. Et elle le produit dans le cœur des hommes, et David le savait bien, parce que lui, il connaissait bien la parole de Dieu. Et nous voyons que Lydie, à un moment donné, se retrouve dans une situation avec plusieurs autres femmes. Elles sont là auprès d'une rivière, elles sont dans un moment de prière, et là, il y a un homme qui s'approche. Deux hommes, si mes souvenirs sont bons, il y a Paul, l'apôtre, et il y en a un autre, coéquipier de Paul, c'est Silas. Et nous nous apercevons à ce moment-là que Paul va s'approcher. Lui, il est détenteur, il est détenteur, il a été appelé par Dieu pour donner la parole aux hommes. Parce que ça éclaire le cœur, ça éclaire l'âme et l'esprit. Alors il va parler comme ça, il va s'introduire dans cette réunion parmi ces femmes qui sont là à prier, et il va leur parler. Il va leur parler de Jésus. Vous savez que Jésus est représenté comme une flamme de feu aussi. Hein. Si nous regardons... dans certains livres du Nouveau Testament, pardon, et particulièrement l'Apocalypse, eh bien, nous voyons que il y a une femme parmi toutes celles qui sont réunies, qui sont là dans ce lieu, il y a une femme qui va brûler en entendant ce que Paul va dire. Et à la suite de ce ressenti à l'intérieur d'elle-même, dans son cœur et dans sa conscience, il nous est dit qu'il y a eu une action du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur lui ouvrit l'esprit pour comprendre ce que Paul disait. Donc c'est un feu qui n'est pas à détruire, mais qui est là pour donner la vie. C'est un feu qui s'appelle tout simplement, eh bien, ce que nous entendons et peut-être ce que nous sommes en train de partager et de vivre ce soir, c'est-à-dire, eh bien, l'écoute de l'Évangile. Et il n'y a pas eu que l'intervention d'un homme qui parle, mais il y a eu l'action de Dieu, parce que le Saint-Esprit est aussi caractérisé et manifesté comme un feu qui descend du ciel. Voilà. Un feu qui purifie, un feu qui enseigne, un feu qui réconforte, enfin, toutes les attributs que nous pouvons lui donner. Et Dieu est intervenu pour ouvrir le cœur, la conscience et l'esprit de cette femme pour qu'elle puisse comprendre ce que Paul enseignait et ce qu'il disait à ce moment-là. Ce que nous avons besoin ce soir, c'est que Dieu, au milieu de nous, vienne nous éclairer dans des paroles peut-être très simples, mais nous avons besoin de cette lumière, nous avons besoin de ce feu pour qu'il puisse, eh bien, remplir tout simplement notre vie intérieure. Il y a un autre homme qui nous est rapporté, et son histoire nous est rapportée dans le livre des Actes. C'est un homme qui est un infirme, il est impotent, me semble-t-il impotent de naissance, qui n'avait donc jamais marché, c'est logique. Et là aussi, l'apôtre Paul, parmi ses pérégrinations dans toute cette région de l'Asie, eh bien, se trouve dans une ville qui s'appelle Lystre. Et là, tout à nouveau, il va parler. Il va être en quelque sorte le porte-parole de Dieu. Il va apporter ce message. Et il y a un homme, parmi toute cette foule qui est nombreuse, un homme qui est particulièrement attentif. Et dont le cœur va s'allumer d'un feu. Qui va lui apporter quelque chose qu'il espérait probablement depuis certainement toujours. En entendant la parole, Paul va le regarder en prêchant ou en parlant, et il va s'apercevoir que cet homme a la foi pour être guéri. Parce que ce feu-là, c'est un feu qui, outre tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, est un feu qui apporte la délivrance, la guérison et le rétablissement des âmes. Et nous voyons que aussitôt, eh bien, Paul va s'adresser à lui parce qu'il voit qu'il a la foi. C'est une lumière qui, liée à ce feu, qui va s'allumer dans son cœur, et Paul va lui intimer l'ordre en disant maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Encore deux ou trois, si vous voulez bien. Il y a un autre personnage, c'est un vieil homme, dans l'évangile de Luc cette fois-ci. Il s'appelle Siméon. Et nous voyons que, depuis toujours, il porte une flamme à l'intérieur de lui-même, il attend quelque chose. On pourrait peut-être dire que son âge est entre 60 et 70 ans, ou peut-être davantage. Et cet homme a toujours attendu quelque chose dans sa vie. Et il avait une conviction qu'il ne mourrait point, attendez la suite, sans avoir vu le Christ de Dieu. Alors, poussé par le Saint-Esprit, dont on a parlé qu'il est aussi une lumière et un feu pour nous conduire, il va rentrer dans le temple de Jérusalem. Il n'avait certainement pas préconçu ou pensé à l'avance ce qui allait lui arriver. Mais à ce moment-là, eh bien, ce feu qui était entretenu depuis des années dans son existence va jaillir et va s'embraser. Parce que, au même moment où il rentre dans le temple, il y a un homme et une femme qui va pénétrer également dans ce lieu saint et qui va porter un enfant. Et les parents vont se diriger vers Siméon et vont remettre ce petit enfant qui n'est autre que l'enfant Jésus, qui vient de naître, il a 8 jours, dans les bras de Siméon. Ce feu que l'on appelle l'espérance. Comprenez? Vous savez, nous vivons dans un monde où le feu est éteint dans le cœur et dans la conscience de beaucoup de personnes. Ce feu que l'on appelle l'espérance, Siméon l'a vu. Et c'est parce que finalement il y a eu cette conjonction voulue, planifiée par Dieu, que ils se sont tous retrouvés à ce moment-là. Et après il pourra dire, Siméon, maintenant Seigneur, j'ai vu ton salut, alors je peux partir en paix. Encore un autre cas. Vous vous souvenez de Marie, qui est assise aux pieds de Jésus et qui écoute le Seigneur parler. Cette paisible Marie est là. C'est un jour exceptionnel. Jésus et ses disciples sont dans la maison, dans sa maison. Et au lieu de s'affairer à toutes les devoirs domestiques, elle va prendre un temps de repos parce que elle veut écouter ce que Jésus a à dire. Et figurez-vous que elle va entendre. Et Jésus va justifier Marie en disant devant tous qu'elle a choisi la bonne part. Parce que la parole de Dieu est aussi un feu qui nourrit, qui nous apporte la paix dont nous avons besoin, dont Marie est en quelque sorte est bien là une représentante. Et puis que dire, et je termine sur cette dernière pensée avant de passer à un autre texte pour nourrir notre réflexion, que dire de Zachée? Vous savez, ce publicain, lui, qui n'aurait jamais donné l'impression qu'il s'intéressait à Dieu, mais derrière ces dehors peut-être d'hommes libres et d'hommes libéral, on pourrait dire, il avait de grands besoins. Alors, vous connaissez l'histoire, hein? Il veut voir Jésus à tout prix. Il veut se faire une opinion, il veut se faire plus encore une conviction. Et il va monter dans un arbre, un sycomore. Et Jésus va l'appeler. Et à ce moment-là, il va lui dire, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Cette simple parole va allumer un feu dans le cœur de Zachée. Et vous savez que ce feu s'est caractérisé par quelque chose aussi. C'est parce que quand il nous est dit que Zachée, après avoir entendu ce que Jésus lui demandait d'habiter ou de séjourner, eh bien dans sa maison, il nous est dit simplement cette petite phrase qui montre bien que ce feu-là, il apporte que ce que tous les hommes ont besoin, la joie. Il descendit avec joie pour recevoir Jésus. Alors on a fait un petit tour d'horizon de ce que peut procurer, finalement, eh bien le feu. Alors tout ça, ce sont des brûlures qui ne font pas de mal. Et j'aimerais justement continuer notre exposé, et nous allons lire un autre texte qui sera finalement eh bien le corps de notre réflexion, en quelque sorte. Ceci dit, dans Luc chapitre 24, il est dit cette parole, il nous est donné cette parole tout simplement, que vous connaissez hein, naturellement. On peut lire par exemple à partir du verset 25, Luc 24, verset 25, Alors Jésus dit à ces hommes qui étaient auprès de lui, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent, disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin, et il entra pour rester avec eux. » Pendant qu'il était à table avec eux, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, écoutez bien, alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» C'est la liaison que nous pouvons faire après ce premier texte avec le second, qui était un texte naturellement de l'Évangile, rapporté par Luc, qui nous parle des brûlures. Voilà, des brûlures. « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Alors vous connaissez, je ne vais pas rappeler toute l'histoire des disciples d'Emmaüs, parce que c'est tout le chapitre, qui nous raconte la mésaventure de ces deux hommes, et qui sont dans une situation de grande perplexité. Ils sont même, pratiquement nous pourrions dire, en dépression, parce que leur ami Jésus, ils l'ont vu crucifié, l'ont-ils vu de loin être mis au tombeau, mais ils ne savent pas encore qu'il est ressuscité. Ils n'ont qu'une partie de l'histoire. Alors ils sont désespérés. Ils repartent, ils sont véritablement là avec un cœur profondément vide. Et pourtant, sans s'en apercevoir, ils vont rencontrer Jésus. Jésus va faire route sur le chemin qui les mène à leur village d'Emmaüs. Et cet homme, cet inconnu pour eux dans un premier temps, va leur parler des Écritures. Et au bout d'un certain temps, ils vont ressentir à l'intérieur, au contact de ce que cet inconnu, qui n'est autre que Jésus, qu'ils ne reconnaissent pas encore, parce que leurs yeux en sont empêchés. Alors à ce moment-là, ils vont sentir, ils ne le reconnaissent pas physiquement avec leurs yeux, mais leur cœur sent quelque chose qui les brûle à l'intérieur. Et comme quelquefois, eh bien, nous pouvons ressentir ce genre de sentiment dans des grandes émotions ou dans des grandes aventures de notre vie. Des aventures sentimentales, des aventures affectives, parce que c'est le cœur, naturellement. Et on se dit, mais je comprends plus là, il y a quelque chose, et notre cœur s'emballe, il brûle, il se consume, c'est curieux ça, hein. Je pense que on est des hommes et des femmes, on a tous ressenti ça, parce que c'est ainsi que Dieu nous a fait, naturellement. Avant de voir, eh bien nous pouvons déjà pressentir, nous pouvons déjà avoir comme cette intuition, comme quelque chose qui nous dit, mais il y a quelque chose qui se prépare à ce moment-là. Quelque chose de fort. Et là, eh bien, c'est tout à fait dans le contexte que nous avons évoqué il y a un instant. C'est au contact de Jésus qu'ils ne reconnaissent pas, mais ce Jésus qu'ils ne reconnaissent pas parle. Et il est en train de leur enseigner les Écritures. Ce sont des Juifs. Et là, en entendant qu'il leur parle de Moïse, qu'il leur parle de la loi des prophètes, qu'il leur parle de ceci et cela, sans tellement comprendre et saisir, ils sentent un feu, une brûlure. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Moi, je souhaite que ce soir, par-delà, quelquefois les maladresses de la parole d'un homme, vous puissiez ressentir quelque chose parce que vous n'êtes peut-être pas venu pour rien ce soir. Vous n'êtes peut-être pas venu parce que c'est l'heure de la réunion. Tous les vendredis soirs à Saint-Nazaire, il y a une réunion à 20h30. Parce que vous vous dites, eh bien peut-être, je n'ai pas d'autre chose à faire, je vais aller écouter un commentaire de la Bible. Mais vous avez bien fait de venir, quelles que soient vos raisons et vos motivations, parce que peut-être que Dieu est en train de préparer votre cœur est en train de se réchauffer sur un sujet ou sur un autre, peut-être dans une question qui vous rend perplexe, peut-être quelque chose qui finit par vous insupporter en disant « Mais Seigneur, si j'avais la réponse et la solution, si tu pouvais m'apporter la guérison ou la délivrance ou ceci ou autre chose, peu importe. » Le Seigneur est en train de préparer votre cœur. Il est en train de préparer quelque chose qui va vous brûler, mais qui va pas vous faire du mal. Qui va vous faire du bien. notre cœur, diront ces hommes. Ils le ressentent tous les deux ensemble. Ce n'est pas l'histoire de l'un, mais c'est l'histoire de ces deux hommes, des disciples du Maître. Il y a plusieurs formes de brûlure. D'abord, la Bible nous parle d'une brûlure d'amour. Vous le savez, ça. Je crois que le plus beau verset qui parle de la brûlure d'amour, c'est quand même Jean 3,16. Car Dieu a tellement. Il a vraiment. Il a infiniment aimé le monde. Alors la suite, vous la connaissez naturellement. Et puis il y a un livre qui nous parle des brûlures d'amour. Peut-être l'avez-vous deviné, un livre de l'Ancien Testament. On l'appelle le Cantique des Cantiques. Alors lisez-le. C'est un livre formidable. C'est une richesse de poésie. C'est extraordinaire. Ah ouais, parce que c'est véritablement l'expression de l'amour de Dieu pour ses créatures, pour Israël en particulier, et pour tous les hommes. C'est l'histoire d'un fiancé et d'une fiancée, qui image en quelque sorte, eh bien, l'amour de Christ pour son Église que nous sommes aujourd'hui. Et il y a des images, il y a des parfums, il y a des senteurs, il y a des fleurs, il y a des fruits. C'est très pittoresque. Alors lisez le Cantique des Cantiques, parce que ce sont vraiment les brûlures d'amour. Ça s'explique pas, l'amour. Comment se fait-il qu'un homme va choisir, eh bien là, une jeune femme, voilà, tout simplement, et l'aimer exclusivement. Ça, c'est le secret de Dieu qu'il a mis dans nos cœurs. C'est une belle chose, assurément. Et puis il y a son contraire, il y a les brûlures de la haine. Alors là, c'est autre chose. Il nous en est parlé dans la Bible, et trop souvent, malheureusement. Parce que finalement, l'histoire de la Bible, c'est pas l'histoire de Dieu, c'est l'histoire des hommes, vus par Dieu, pour que nous puissions passer de ces brûlures de la haine, destructrices, à véritablement cette dimension des brûlures de l'amour. Et quand on était brûlé par l'amour de Dieu, alors après, on ne sait plus comment faire pour haïr, puisque notre cœur a été changé. Il a été purifié, puisque je vous ai dit que le feu, il purifie, il nettoie, il sanctifie, il régénère. Et cette brûlure de la haine, on le voit se manifester à l'état individuel de notre humanité, mais quelquefois d'une manière collective, lorsque nous parlons de ce mot terrible de guerre mondiale. Et c'est la racine de tous les maux, la racine de tous les crimes, de toutes les choses. Mais intéressons-nous au mot brûlure. Brûlure est synonyme naturellement, au premier abord, de douleur, de chaleur intense. On le comprend, de souffrance insupportable, parce que une fois que le feu a touché éventuellement une partie de notre cœur, de notre corps, pardon, il y a après toute une continuité, hein, on sait les souffrances terribles que cela peut occasionner pendant des jours et des jours. Il y a des traitements naturellement. Et puis je pense que pour beaucoup de gens, le feu c'est synonyme finalement, eh bien, de l'enfer. Hein. Ça c'est automatique, nous pensons à cela. Mais on va aller un peu plus loin. On va aller un peu plus loin parce que la Bible aussi nous parle de brûlures. Elle nous dit qu'une des causes des brûlures de l'humanité, c'est le péché. Et il ne brûle pas seulement de ce feu visible, sensible, mais il brûle également les hommes dans leur conscience. Ce qui fait que lorsque nous avons été brûlés, la peau est tellement cautérisée, c'est que quelquefois nous ne sentons plus rien. Et la conscience des hommes est véritablement cautérisée. Quand on leur parle finalement de ce feu qui est le péché, ils sont complètement indifférents, ils sont complètement à côté. On le voit dans notre société aujourd'hui. Hein. C'est un mot qui n'est pas très agréable, que l'on veut employer le moins possible parce que ça dérange, ça embarrasse. Mais néanmoins, pourtant, c'est une réponse. C'est une parole que Dieu a donnée, parce que si nous n'en prenons pas conscience, nous risquons d'être consumés sans nous apercevoir. Et la conscience cautorisée des hommes, c'est parce que finalement, eh bien, on a tellement voulu échapper à cette notion de péché, à cette prise de conscience du péché, que on ne s'aperçoit plus de rien. Cette brûlure, elle va non seulement détruire la conscience, mais elle va détruire la raison des hommes. Ce qui fait qu'à partir de passer des certaines barrières, eh bien, dans l'inconscience, dans leur imprudence, dans tout ce que vous pouvez imaginer, eh bien, voilà, ils vont se donner corps et âme. Et cette brûlure-là, eh bien, elle enflamme les sentiments pour devenir des passions. Et ça fait mal. Parce que quand la passion s'arrête, ça s'appelle la déception. Et là, on tombe de haut, la désillusion. Et ça brûle. Ça brûle et ça aveugle. À tel point que, quelle que soit la nature du péché, on s'aperçoit que souvent les gens qui s'y adonnent sont aveugles. Ils ne s'aperçoivent même pas. Ils n'entendent plus, ils ne s'aperçoivent pas. Ça, c'est une version des choses. Mais en restant dans la pensée que nous développons ensemble, c'est que le feu dont nous parlons ce soir, c'est un feu qui purifie. C'est le contraire de notre propos d'il y a une minute. Parce que Dieu a envoyé ce feu pour nous purifier. Comment fait-on pour, sortir de l'or pur? On le passe au creuset. Alors on le met à je ne sais combien de degrés. Et là, toutes les scories, toutes les impuretés vont disparaître. C'est vrai pour l'or, c'est vrai pour l'argent, mais il est nécessaire, autrement l'or ne sera jamais pur, il ne sera jamais purifié. Et pourtant, dans la Bible et le livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, si je m'en souviens, il nous est parlé de l'or pur, qui est la foi. Et la foi doit passer par des épreuves. Elle doit passer par toutes sortes de choses pour être purifiée. Et notre foi, chacun, alors que nous sommes là dans cette méditation, eh bien Dieu va permettre qu'elle puisse passer au creuset, qu'elle puisse être nettoyée, dégagée de toutes les impuretés, de toutes les scories, pour que cette foi grandisse et devienne véritablement l'objet de l'agrément de Dieu, du plaisir de Dieu, et en retour, eh bien, de pouvoir recevoir les exaucements à nos prières et tout ce dont nous avons besoin. Alors, la foi, c'est un trésor, on le chante, et il est nécessaire que notre foi soit purifiée. Donc, c'est un feu nécessaire et qui va produire quelque chose de bon. Autre vertu du feu, eh bien, c'est que le feu, il éclaire et il illumine. Nous sommes à quelques jours de Noël. Le feu qui brûle dans nos rues, il est artificiel, hein, d'accord? Voilà, hein. On n'en est plus maintenant à mettre des bougies, vraies bougies dans le sapin. Il y a eu trop d'accidents et trop d'incendies dans les maisons, mais il fut un temps où tous les Noëls, il y avait toujours des catastrophes, hein, et des maisons qui brûlaient. Hein. Alors aujourd'hui, on a passé à ça, c'est beaucoup plus pratique. Hein. Mettez dans la prise, ça y est, il n'y a pas de problème. Hein. Mais le feu éclaire. Et figurez-vous que la parole de Dieu dont nous parlions, c'est un feu qui nous éclaire. D'ailleurs, David le comprendra bien parce que dans un psaume dont j'ai oublié le numéro, mais ça n'a pas d'importance, dira ceci, s'exprimera de cette manière, il priera Dieu, il dira, mais ta parole est une lumière sur mon sentier, une lampe qui brille sur mon chemin, voilà. Et on est venu éclairer ce soir, hein. On n'est pas venu, heureusement, il y a de l'électricité dans nos rues, hein. Dans vos voitures, vous avez allumé les phares, hein. D'ailleurs, c'est un danger pour vous, mais c'est un danger pour les autres, hein, si vous le faites pas. Là, nous sommes rentrés, il y a suffisamment d'éclairage pour pouvoir nous regarder et puis nous apercevoir, et c'est même très clair, hein. C'est bien comme ça, hein. Donc, le feu, il est clair. Vous savez, Jésus nous le dira, il le dira à ses disciples, il le rappellera, il dira dans le sermon sur la montagne, il dira, mais vous êtes quoi? Vous êtes la lumière du monde. Ouais. Et cette lumière-là, eh bien, elle brille. Et elle brille non seulement pour nous éclairer pour nous-mêmes, mais elle brille aussi pour tous ceux qui sont autour. Et Jésus ne s'est pas trompé. Lui-même étant la lumière du monde, en recommandant que celui qui le suivrait ne marcherait pas dans les ténèbres, être le plus près possible de lui, parce qu'il est clair, il rayonne, et que nous devenions semblables à lui pour que nous puissions, nous aussi, avec toute la modestie et l'humilité qu'il se doit, que nous soyons aussi des rayons de sa personne, de son message, de sa vie et de sa gloire autour de nous. Alors, donc cette lumière, elle éclaire et elle illumine. Et vous savez que le feu, il rassemble. Depuis les temps immémoriaux, depuis l'homme de Cro-Magnon et tous ceux qui sont passés avant nous, hein, vous savez comment les gens se retrouvaient, comment les gens se rassemblaient autour d'un feu. Ouais. Il y a toute une histoire autour de ça. Hein, parce que justement, la vie s'est organisée autour de la lumière, de la chaleur. Ça permettait de faire cuire les aliments, et etc., etc., et de se réchauffer. Par exemple, dans les frimas des temps préhistoriques. Eh bien, c'est ça aussi, ce feu. Sa vie s'est organisée autour du feu. Et si nous voulions nous-mêmes nous organiser ou réorganiser notre vie autour de celui qui est la lumière, de celui qui est le vrai feu, de celui qui brille, de celui qui rayonne, alors à ce moment-là, eh bien, c'est l'invitation aussi qui nous est adressée à chacun et à chacune. Et puis c'est une protection aussi. Parce que tous ces hommes de l'histoire ancienne se rassemblaient parce que finalement le feu chassait aussi tous les prédateurs qui étaient autour. On ne s'approchait pas. Hein. Alors aujourd'hui, on a des maisons, on a des fenêtres, des portes, etc. On rentre chez soi et puis on est tranquille. Hein. Enfin, vous allez me dire qu'il n'y a aucune crainte, vous n'allez pas rencontrer un lion en sortant d'ici. Ça serait quand même assez étonnant, à moins que... Bon, on ne sait pas. Mais méfiez-vous quand même. Donc, vous rendez compte tout ce que ça peut représenter, le feu. Et tout ça, eh bien, ça a été donné, justement, pour une bonne raison. Dans la Bible également, il est comparé, le feu est comparé également au Saint-Esprit, ou le Saint-Esprit est comparé au feu. Oui. Parce que c'est lui qui nous donne une vie intérieure, une lumière intérieure, l'Esprit de Dieu. À tel point que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrira aux Éphésiens, aux chrétiens d'Éphèse, il parlera de ces prières qui montent vers Dieu. Il dira « Mais je prie pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur, la lumière dans notre cœur. » Et cette lumière dans notre cœur, c'est exactement la même dont nous parlions pour Lydie, où le Seigneur lui a ouvert l'esprit pour qu'elle comprenne ce que disait Paul dans sa prédication. Eh bien, c'est exactement la même chose. Nous avons peut-être parfois connu des gens qui sont venus pendant des années dans nos réunions, qui ont entendu la parole, qui la connaissent pour la connaître comme ça, jusqu'au jour où véritablement il y a eu quelque chose de particulier. Peut-être que depuis longtemps leur cœur brûlait, mais il ne s'était jamais enflammé. Et peut-être que votre cœur brûle depuis pas mal de temps, mais il ne s'est pas encore enflammé. Peut-être que ce soir il peut s'enflammer. Et ça sera une œuvre de Dieu, ça sera une œuvre du Saint-Esprit, où le Seigneur va nous faire comprendre, va nous faire rentrer dans une dimension que nous n'aurions peut-être pas soupçonnée. C'est une belle histoire et c'est une belle aventure. On appelle ça communément la conversion. Nos yeux s'ouvrent. Ils s'ouvrent à une autre dimension. Pour revenir et terminer sur la parole de Dieu, qui est une lumière de vérité, je voudrais le signaler au passage, c'est un feu qui produit donc la lumière. Et s'il produit la lumière, ce feu-là, la parole de Dieu, elle dissipe autre chose. Elle dissipe l'obscurité la nuit. C'est-à-dire qu'elle évacue. À partir du moment où je projette une lumière dans un endroit sombre, noir, alors à ce moment-là, les ténèbres vont disparaître. Vous voulez qu'on fasse l'essai en éteignant les lumières? Vous êtes habitué, hein? Vous connaissez le système, hein? Pas de problème. Quand on est arrivé, on allumait la lumière, c'était tout noir. Et là, ouais, la lumière est arrivée, naturellement. Mais vous savez que cette lumière-là a présidé à la création de l'humanité, du monde, de la Terre. Que la parole soit et la lumière fut. Oui, c'est une parole, toujours le principe de la parole, créatrice. Mais cette parole, elle n'est pas seulement créatrice, elle est rédemptrice aussi, parce que c'est de cela que je vous parle ce soir. Ça va beaucoup plus loin qu'une création, nous avons été créés en tant qu'hommes, comme nous le sommes, naturellement, dans cette humanité qui est la nôtre, mais Dieu veut que nous soyons aussi des citoyens d'un autre monde, le royaume des cieux. Et ça, il faut une nouvelle naissance, il faut quelque chose. C'était l'illumination qu'essayait de provoquer Jésus dans le cœur de Nicodème, Jean chapitre 4. Naturellement. Alors pour terminer sur notre texte, simplement, Jésus va dire à ces hommes, disciples d'Emmaüs qui cheminent sur la route avec lui, Jésus va leur dire cette parole « Ô hommes sans intelligence ». Je ne veux pas dire que ces hommes n'étaient pas intelligents. Ils étaient d'une intelligence, mais d'une intelligence humaine. Ils avaient besoin de comprendre quelque chose qui était supérieur. Alors il leur dit, hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes. Peut-être ça fait longtemps que vous lisez la Bible. Peut-être longtemps que vous entendez la parole de Dieu. Mais il arrive à un moment ou à un autre qu'il peut se faire un déclic dans notre vie. Et là, nous disons, j'avais pas compris comme cela. Et c'est ce que Jésus est en train de faire comprendre à ses amis. Et il va leur dire, tout simplement, eux, les témoins de sa vie, ses disciples d'Emmaüs, il va leur dire, mais écoutez, il fallait que le Christ souffre ces choses, parce qu'il se questionnait pourquoi. Pourquoi leur ami Jésus avait été livré, avait été crucifié, il était mort, il avait été mis au tombeau. Et il va leur dire, mais il fallait que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, parce que pour rentrer dans la gloire, eh bien, il fallait absolument que s'accomplisse le plan de Dieu de salut, de rédemption. Alors Jésus va parler. Pensez qu'il connaît bien les l'Écriture, Jésus. Il va parler de Moïse, de tous les prophètes, et il leur explique. Je voudrais quand même vous dire au passage que prêcher l'Évangile, c'est une explication. Hein. Ouais. Ça peut sembler une folie, mais ce n'en est pas une. C'est une explication. C'est d'amener les hommes que nous sommes, eh bien, à comprendre la volonté de Dieu. Il leur expliqua dans toutes les Écritures qui le concernaient, ce qui le concernait. Alors, ils vont s'arrêter dans le village où ils arrivent. Jésus va feindre de vouloir continuer la route. Ils vont le retenir. Et c'est bien que justement, lorsque nous avons Jésus, même si nous ne le reconnaissons pas auprès de nous, nous lui disons « reste avec nous », parce que le soir décline. Eh oui, le soir c'est la nuit, et la nuit c'est l'obscurité. Comprenez ? Ça brûlait dans leur cœur. Et quand ils ont dit cette parole à Jésus, « ne nous quitte pas, reste encore avec nous, prends le dîner avec nous, et puis après on se séparera, mais pour l'instant on reste comme ça. » J'ai eu l'occasion de parler avec une jeune femme hier, dans une grande détresse. Et grande détresse, grande dépression. Nous avons prié naturellement pour eux, pour elle, pardon. Et en parlant comme ça, elle me disait qu'elle aimait le Seigneur. Elle souffrait terriblement. Des tourments. Une crise de tourments. Et ça faisait vraiment mal au cœur de la voir dans cet état. Et après quelques questions, je lui parlais de Jésus. Elle m'a répondu, mais j'aime Jésus. Je ne veux pas qu'il me quitte parce que sans lui, je ne peux rien faire. Je suis perdu sans Jésus. Alors, ça m'a permis de lui dire, mais écoute, tu es sur la bonne voie. Hein? Et c'est vrai que nous avons prié avec elle et elle m'a renvoyé un petit mail ce matin en disant, oh là là, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Ah oui. Et ça, c'est quelque chose. Et ça me fait penser justement à cette jeune personne. Qui disait, mais Seigneur, ne me quitte pas, parce que si tu me quittes, je suis dans le noir, je suis dans la nuit, je suis dans l'obscurité. Fais brûler ton feu en moi, ce feu de l'amour pour toi. C'est ce qu'ont fait les disciples. Reste avec nous, car le soir approche, et nous ne voulons pas repartir dans la nuit. Alors, à ce moment-là, eh bien, Jésus a célébré ce qu'il a célébré déjà devant ses disciples. Avant la croix, là, il s'agit après de la résurrection, il a pris du pain, il l'a rompu, et c'est à ce moment-là que les yeux des disciples d'Emmaüs se sont ouverts. Au moment où il a fait ce geste, quelquefois il suffit d'un geste, il suffit d'une parole, il suffit d'une petite chose éclairée par le Saint-Esprit que vous compreniez tout. Que là, votre cœur s'illumine, parce que ça brûlait, ça a été quelque chose, un feu consumant à l'intérieur de vous-même, sans pouvoir l'expliquer, sans pouvoir le comprendre, mais à un moment donné, ça y est, vos yeux s'ouvrent, votre cœur s'ouvre, votre conscience est éclairée. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais au moment où ils l'ont reconnu, il a disparu. Ça, c'est un petit peu les mystères des choses. Parce que vous savez, quand Jésus disparaît de notre vue, c'est pour être encore plus près de nous. Et devinez-vous où il se trouve. Il se trouve pas seulement avec nous, près de nous, il se trouve en nous. Il se trouve à l'intérieur de notre cœur. Parce que nous sommes appelés non pas à cheminer avec le Seigneur, à marcher avec lui, c'est une vérité. Mais nous sommes appelés à véritablement faire de notre cœur et de notre vie, de notre corps, le temple du Saint-Esprit. C'est une lumière, le Saint-Esprit. C'est un feu qui brûle à l'intérieur et qui continue jusqu'au moment où nous partirons de cette terre, qui continue à nous sanctifier, à nous régénérer, à nous transformer. C'est pourquoi ne vous découragez pas s'il y a encore des aspérités, s'il y a encore peut-être parfois des chutes et des fautes. Ce n'est peut-être pas forcément les meilleures choses, mais une chose qui est certaine, c'est que continuez à aimer le Seigneur, continuez à lui faire confiance. Le diable vous dit, allez, t'es pas bien, c'est plus la peine de suivre Jésus. Et bien moi, je vous dis ce soir, eh bien, continuez à suivre le Seigneur. Même ce que vous pouvez ressentir, c'est que le Seigneur, il va faire son œuvre. Il va, par le Saint-Esprit qui est en vous, il va continuer à vous brûler. Il va continuer à mettre cette lumière. Et au bout d'un certain temps, là où vous avez bataillé, là où vous avez guerroyé, à un moment donné, vous prendrez la victoire. Parce qu'il est là, le Seigneur. C'est une brûlure. Peut-être d'un côté vous avez la brûlure du péché, mais d'un autre côté vous avez la brûlure de la purification, à travers sa parole et à travers le Saint-Esprit qui agit en vous. Ne vous découragez pas, ne baissez pas les bras, parce que si vous regardez à vous-même, ben vous allez vous retrouver dans le noir. Seigneur, qu'est-ce que je me sens sale? Qu'est-ce que je me sens impropre? Qu'est-ce que je suis indigne de toi? C'est peut-être une vérité, mais le Seigneur est venu pour vous apporter le feu qui purifie. Et ça, c'est son œuvre. C'est son œuvre. Alors ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est ce que je me suis efforcé de faire ce soir, de vous rapporter quelques textes de l'Écriture, de vous donner quelques témoignages d'hommes de la Bible qui ont été touchés par cette brûlure, par le feu de Dieu. Alors, il y a quelque chose de formidable dans ce qui nous est annoncé, ce que la Bible nous annonce, parce que nous nous apercevons que c'est pas pour nous détruire, c'est pas pour nous ruiner, mais c'est pour nous sauver. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ton feu. Oui, je sens qu'il y a quelque chose qui monte à l'intérieur de moi, ça me brûle. Eh bien, que ce soit une brûlure d'amour pour le Seigneur. Que ce soit une brûlure qui vous permette de dire, eh bien, Seigneur, apprends-moi à t'aimer comme toi tu m'aimes. En me souvenant, Seigneur, que tu nous as dit que tu as tellement aimé le monde, que tu m'as tellement aimé, afin que je puisse croire en toi, pour que je ne périsse point, mais que je puisse avoir la vie éternelle. Et de l'autre côté, je peux vous dire, ce feu, ce ne sera pas le feu de l'enfer, hein. Ce sera une lumière à jamais, comme nous dit le chapitre 20, je crois, du livre de l'Apocalypse, où là, il n'y aura plus ni jour, ni nuit, mais la lumière sera en permanence, et nous sommes appelés justement à rentrer dans cette dimension. Alors, Seigneur, donne-nous de brûler d'amour pour toi. Donne-nous de brûler pour l'écoute de ta parole, pour aimer ta parole, et de pouvoir nous en délecter, parce que ta parole est la vérité, elle est notre vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu nous as rappelé ces choses. À l'instar de ces hommes qui marchaient sans te reconnaître, les disciples d'Emmaüs, et puis ils ont entendu ce que tu leur disais, mais ils n'avaient pas encore saisi toute la valeur, Seigneur, de ces paroles. Alors, dans le nom de Jésus, nous voulons croire que, hier comme aujourd'hui, tu es là, Père éternel, et il y a certaines brûlures qui viennent à l'écoute de cette parole qui crée en nous un désir, une aspiration, une faim, une soif, et qui nous amène, Seigneur, véritablement à te désirer. Oui, Seigneur, ta parole nous le dit dans ce psaume, fais de l'éternel tes délices. Eh bien, Seigneur, je te demande de visiter mes amis ce soir, et de leur donner, Seigneur, cette pensée de faire de toi leur délice, et ce sera une douce brûlure qui va déboucher, Seigneur, sur tout ce que peut apporter la lumière, tout ce que peut apporter ce feu de Dieu, la paix, la joie, le bonheur, la tranquillité. Oui, toutes ces choses, Seigneur, ce sont des choses bonnes. Mais Seigneur, il faut d'abord que le reste qui est mauvais soit brûlé, disparaisse, pour laisser toute la place à véritablement, Seigneur, ce qui est bon, c'est-à-dire la personne de Christ au fond de nos vies. Seigneur, tu vois la prière de chacun maintenant. Le désir de chacun, ce n'est pas le fait seulement d'entendre, mais de te prier, de te dire, Seigneur, oui, vraiment, je veux devenir un chrétien parce que tu m'as appelé à être la lumière du monde. Je veux devenir un disciple de Jésus-Christ pour faire connaître autour de moi. Eh bien, quelle est la valeur et la nature de cette flamme? Oui, Seigneur, qui doit être jusqu'au bout la flamme du premier amour. Eh bien, qu'il en soit ainsi, Seigneur. Que je puisse continuer, Seigneur, à m'approcher de toi avec ferveur, avec ardeur. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous te le demandons ce soir, et nous te remercions parce que tu es vivant et tu es fidèle. Merci pour ta parole qui est une lampe à mes pieds, et, en effet, Seigneur, une lumière sur mon sentier. Qu'il en soit ainsi pour chacun. Au nom de Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.